for a test drive. Left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Apple bottom, make him wanna bite. I just wanna have a good night.
The Positive Vibe Show on CKUT 90.3 FM with Roger Moore.
CKUT 90.3 FM à Montréal. Je suis Moukala, votre animatrice, comme à l'habitude. Premièrement, je vais vous souhaiter une bonne année 2024. Je n'ai pas pu être présente en décembre 2023. Mais bon, me revoilà en fait janvier 2000, en fait, pour l'année 2024. Et je vous souhaite donc une bonne année. Hein. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, on va parler donc de l'organisation des travailleurs de l'économie informelle. Je vous mentionnais lors de la dernière émission, en fait, là, on parlait de la syndicalisation possible des travailleurs de l'économie informelle, parce qu'en fait, on faisait le lien avec le dialogue social. Puis, ben, je vous mentionnais qu'on allait en parler donc la prochaine émission, lors de la prochaine émission. Bon, et donc, à ce moment, on était en novembre 2023, donc prochaine émission décembre 2023. Mais comme je n'étais pas présente, je vous en parle aujourd'hui. Également, on va parler, donc, je vous le mentionnais également, donc, de journalisme, en fait, de l'état du journalisme dans les pays en développement, donc, hein, parce qu'on associe beaucoup les pays en développement à des pays, en fait, où on pense que les gens meurent tous les jours, ou, ben, voilà, ces gens-là sont assassinés, bon, bref, donc, on va essayer de vérifier si c'est vrai. Donc, voilà, assassiné parce qu'il parle, hein, tout simplement. Donc, on va essayer de vérifier si c'est vrai. Donc, on se laisse pour une brève petite pause et on se retrouve donc avec nos manchettes du jour. Me revoilà au micro. Donc, première manchette, un article du journaliste Nicolas Lachance, paru dans le journal de Montréal le 17 janvier 2024. Puis, en fait, on parle d'immigration. Donc, on parle du Parti québécois essentiellement. Donc, il y aurait le chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Okay, qui mentionne donc lors d'une campagne, lors d'une réunion de campagne électorale, en fait une réunion avec son équipe au lac Saint-Jean, donc monsieur, en fait là, le PCP, on l'appelle le PSPP, ouais, PSPP, indique à ce moment, donc lors de la rencontre, qu'il veut réduire les seuils d'immigration permanente à 35 000 personnes par année. Donc, lui, il veut repartir à zéro ses calculs parce que, ben, on a trop d'immigrants, en fait, essentiellement au Québec, trop d'immigrants temporaires. En 2013, en fait, on était à 100 000 immigrants temporaires versus 372 000 à la fin mars 2023. Puis, devant cette explosion, donc, PSPP a dit ben, qu'il faut absolument revoir les seuils. Et donc, dans l'article également, on parle d'un référendum sur l'immigration. Essentiellement, donc, ce que M. PSPP indique, c'est que, ben, il faut un référendum, puis il faut que M. Legault, actuellement le premier ministre du Québec, s'entende avec Trudeau, le premier ministre du Canada, pour revoir, en fait, pour de façon définitive ces seuils et décider ben, quels sont les bons seuils, au fond, pour l'État québécois. Et donc, dans ce cadre, j'ai lu un second article, toujours de Nicolas Lachance. Hein? Nicolas Lachance et Patrick Belle-Rose, mais je ne suis plus certaine si Nicolas Lachance est également auteur de l'article. Vous irez dans le Journal de Montréal le 18 janvier 2024. Puis, en fait, l'article s'intitule « Lettre de Legault à Trudeau, la CAQ a tardé à agir, clame le PQ ». Donc, en gros, la lettre, vous pouvez la retrouver, j'imagine, sur le web. La lettre indique que la situation est devenue insoutenable. Donc, selon M. Legault, hein, donc, le Québec, a accueilli plus de demandeurs d'asile que tout le reste du Canada en 2022. Donc, l'an dernier, en 2023, la moitié des demandeurs d'asile arrivés au Canada se sont installés au Québec. Et en raison de ce nombre, les demandeurs d'asile peinent à trouver en raison du nombre important de demandeurs d'asile, ils peinent à trouver un toit, ce qui contribue à accentuer la crise du logement, selon donc M. Legault. Puis, j'ai un petit commentaire tout de suite. Donc, ce qu'on lisait l'actualité, puis de plus en plus, je trouve que l'État québécois, en fait, les dirigeants, créent un lien direct entre la crise du logement et l'immigration. À un moment, je vous avais parlé du fait d'un article de M. Bocoté, ce journaliste et sociologue, qui disait que le calcul est clair, en fait, s'il y a une crise du logement, en fait, à peu près, c'est en raison de l'immigration. Et de plus en plus, je n'étais pas d'accord, et de plus en plus, je vois que c'est un peu, je ne sais pas si c'est ce que dit M. Legault, c'est ce qu'il prétend, en fait. Parce que le nombre de demandeurs d'asile accentue la crise du logement. Le chef du Parti québécois, lui, c'est ce qu'il dit. Donc, il y a un lien direct entre la crise du logement et l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, bref, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on nous met un peu, qu'on met sur le dos, en fait, sur les immigrants et les nouveaux arrivants, cette fameuse crise du logement, alors que, si on prévoit accueillir 35 000 personnes chaque année, il faudrait peut-être prévoir 35 000 logements de plus, ou bref. Donc, voilà. Et M. Legault, également, dans sa lettre, fin de la partie, dit que l'accueil de ces nouveaux, en fait, on parle de demandeurs d'asile spécifiquement, à faire en sorte qu'on a dû ouvrir 1150 classes d'accueil pour franciser ces personnes et les intégrer, ce qui est l'équivalent donc d'une cinquantaine d'écoles primaires. Bref. Donc, pour cette raison, PSPP dit que M. Legault doit vraiment s'asseoir avec le premier ministre du Canada puis revoir de façon, je dirais pour de bon, les seuils d'immigration. Donc, je répète, il propose de les réduire à 35 000. Donc, on verra ce qui va se passer. Dernière manchette, en décembre 2023, on célébrait le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, le 10 décembre 2023 spécifiquement, j'espère que vous connaissez tous cette fameuse Déclaration des droits de l'homme. Je dirais que c'est la loi ultime, celle qui chapeaute toutes les lois à peu près, je dirais. Donc, depuis 75 ans, la Déclaration vise à conférer aux sociétés l'égalité, les libertés fondamentales et la justice. Elle consacre les droits de tous les êtres humains et sert de modèle mondial pour les lois et politiques internationales, nationales et locales, et de fondation donc, pour le fameux programme de développement durable à l'horizon 2030 dont je vous parle, dont je vous ai parlé à quelques reprises. Voilà. Donc, célébrons donc, cette fameuse Déclaration des droits de l'homme. Donc, anniversaire, en décembre 2023, mais je pense qu'on peut la suivre en 2024 et pour les années à venir. That special someone. Revoilà au micro. Donc, premier sujet à l'ordre du jour, la syndicalisation des travailleurs de l'économie informelle. On fait un petit bref résumé de la dernière émission. J'indiquais que en décembre 2023, on allait discuter de comment organiser ces fameux travailleurs de l'économie informelle. On disait que en novembre 2023, que le taux de syndicalisation dans ces pays en développement, donc oscille de 20 à 5%, donc de 20, et on diminue ce taux à 5% et même moins. Puis, ben, je disais que l'hypothèse d'un doctorant, parce que pourquoi on a des taux de syndicalisation aussi faibles dans les pays en développement? Donc, 20%, c'est peut-être pas faible hein, quand on le compare à des pays de l'Occident, mais 5%, c'est étonnant. Et donc, l'hypothèse, ce que j'indiquais d'un doctorant en communication, M. Calaille, est que le taux est directement relié donc, au taux d'informalité dans ces pays. Hein, donc, taux de chômage 80%, j'avais ajouté que ben, selon moi, donc, ce taux de chômage 80% équivaut à un taux d'informalité donc, de 80% également. Donc, parce que ben, un taux de chômage indique une relation de travail en fait, qui n'est pas existante, en fait. Donc, la personne n'est pas en emploi, mais la personne peut être en emploi, en fait, travailler dans le secteur informel. Donc, et bien souvent, donc, dans ces pays où l'informalité est omniprésente, comme en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ben, les gens sont au chômage, mais les gens travaillent tout de même. Donc, un taux de chômage à 80% là, peut équivaloir à un taux d'informalité donc de 81% également. Et donc, on fait quoi? Parce que ben, ces gens qui sont des travailleurs de l'économie informelle, en fait, on a besoin, c'est des gens qui sont un peu laissés à eux-mêmes, en fait, d'une certaine façon, parce qu'ils ont accès. Premièrement, ils travaillent combien d'heures par semaine pour avoir un revenu décent? Ensuite, ce sont des gens qui ne sont pas protégés. Hein? Donc, comment faire pour les protéger comme on pourrait les protéger, en fait, le mieux possible? Donc, rapidement, pour discuter à nouveau de cette question d'informalité, donc 2 milliards de femmes et d'hommes, ou plus de 61% de la population active dans le monde, gagnent leur vie dans l'économie informelle. Donc, pour la majorité d'entre eux, il ne s'agit pas d'un libre choix, mais plutôt de la conséquence de la pénurie d'opportunités d'emploi informelles ou d'autres possibilités de subsistance. La proportion de l'emploi informel varie selon les régions, allant de 25% du total de l'emploi en Europe et en Asie centrale à près de 86% en Afrique. Et 80% de l'emploi rural est informel, comparé à 43,7% dans les zones urbaines. Puis, bon, en fait, cette information, je la tirais d'un document de l'OIT. Hein, je disais, allez consulter le BIT, beaucoup d'informations sur le travail, la question du travail, le travail décent notamment. Et donc, à nouveau, pour la définition de l'économie informelle, donc on parle donc, de ces relations de travail qui ne sont pas reconnues officiellement, donc voilà, par l'État, je dirais. Puis voilà. Et donc, parce qu'elles ne sont pas reconnues, ben, ces gens n'ont pas le droit à des assurances, à une protection sociale, etc. Donc, comment organiser donc, ces travailleurs? En fait, oui, en fait, ces travailleurs travaillent. Donc, au fond, c'est ce qu'on doit comprendre. Et lorsqu'ils travaillent, ben, ils devraient au moins avoir accès à un minimum, hein, comme les travailleurs officiellement reconnus. Donc, comment organiser, comment parvenir à syndiquer, à organiser ces travailleurs? J'ai consulté un document donc, du Bureau international du travail, organiser les travailleurs de l'économie informelle, guide à l'intention des organisations syndicales. Donc, en gros, pour les syndicats, organiser l'économie informelle est à la fois un défi et une opportunité. C'est un défi en raison des différences fondamentales entre les relations de travail, donc chez les travailleurs formels reconnus officiellement et chez les travailleurs de l'économie informelle. Donc, on ne spécifie pas, en fait, je n'ai pas noté la spécification, mais différences fondamentales, pas de relations de travail officielles reconnues. Donc, là, comment on fait pour aller chercher? Je pense que c'est une grande problématique. Comment on fait pour aller chercher ces travailleurs de l'économie informelle qui ne sont pas, en fait, qu'on ne connaît pas? Hein? Bon, c'est facile d'aller cibler voilà, ces gens qui travaillent chez Hydro-Québec, mais est-ce que c'est facile d'aller cibler ces gens de l'économie informelle au Québec également, en fait, dans les pays de l'Occident? On parle d'économie informelle, mais qui est davantage, en fait, on fait davantage le lien avec une économie souterraine, donc le travail au noir. Donc, est-ce qu'au Québec, c'est facile d'aller cibler ces travailleurs au noir? Non. Mais les employés d'Hydro-Québec, ben, c'est facile d'aller, en fait, de les connaître. Donc, voilà. Donc, un défi, premièrement, donc, j'ai dit comment aller cibler ces fameux travailleurs. Ensuite, c'est une opportunité pour tout de même pour les syndicats hein, qui peuvent augmenter leur nombre d'adhérents, étendre la couverture de la négociation collective afin de préserver les droits des travailleurs, de ces travailleurs, de les aider à se faire entendre collectivement et d'influencer les politiques sociales et économiques. Donc, c'est dans ce contexte que le mouvement syndical, en général, doit s'engager à promouvoir les droits des travailleurs dans l'économie informelle, à veiller à l'amélioration de leurs conditions de travail et leur permettre de jouer un rôle décisif dans le processus de développement économique et social de leurs pays respectifs. Donc, pourquoi organiser les travailleurs dans l'économie informelle? Donc, ce qu'on dit, les travailleurs de l'économie informelle sont les plus vulnérables et les moins en capacité de faire entendre leur voix par les politiciens, les gouvernements, les employeurs, les agences internationales et autres. Les travailleurs de l'économie informelle ont besoin de s'organiser afin de prendre confiance et de se donner les moyens de mener des actions collectives, d'être reconnus, de se faire entendre et d'être représentés de manière efficace dans leur effort de formalisation de leur travail. Donc, pourquoi organiser les travailleurs de l'économie informelle? Bon, je pense qu'il faut en fait, les reconnaître pour parce que ces gens-là existent tout simplement. Ce sont des êtres humains comme nous et donc les reconnaître, pour les organiser pour les reconnaître en tant que personne humaine, comme le travailleur en fait là, qui occupe une fonction, un emploi formel chez Hydro-Québec tout simplement. Maintenant, ce qui est important, l'essentiel en fait, qui organiser, comment les organiser, hein, parce que c'est un peu plus complexe, hein, on n'a pas de relation de travail officiellement reconnue, donc comment on fait les choses, on se dit, ben, hein, maintenant on est au Québec, puis voilà, puis une grande centrale syndicale, on va dire, la CSN dit, ben, maintenant je vais aller chercher ces travailleurs d'économie informelle au Québec ici, donc on va dire, ces travailleurs au noir, hein, puis on veut, je ne sais pas comment on va faire, mais on veut quand même les syndiquer. Donc, qui organiser? Premièrement, donc, ce qu'on dit, puis c'est important hein, pour toutes les femmes qui écoutent. Donc, les femmes constituent une part importante de ces travailleurs de l'économie informelle. Et ces travailleurs, de façon générale, donc je le mentionne à nouveau, sont confrontés à de longues heures de travail, à des menaces permanentes, à du harcèlement sexuel également. Hein? Donc, juste avant également, donc le BIT a identifié 3 grands groupes dans la main-d'œuvre de l'économie informelle. On a les propriétaires ou exploitants de micro-entreprises qui emploient parfois quelques travailleurs ou apprentis. On a les personnes travaillant à leur propre compte, donc seules ou avec des employés non rémunérés. Et ce qu'on dit, c'est que les marchands ambulants font partie, en fait, constituent la partie intégrante de ces travailleurs à leur propre compte. Donc, beaucoup de femmes hein, chez les marchands ambulants. Donc, le segment le plus visible des travailleurs de l'économie informelle. Bon, moi, j'ai toujours je donne toujours en référence l'Afrique, parce que bon, je viens de là. Et puis, ben, après, mais en Asie, c'est la même chose. En Amérique latine, c'est la même chose également. Donc, on parle de marchands ambulants, donc ces fameuses personnes qui vendent fruits et légumes, donc un peu partout, donc dans ces pays de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine. Ensuite, troisième grande catégorie de travailleurs de l'économie informelle, on a les travailleurs dépendants, je dis bien dépendants, donc qui sont des salariés qui travaillent dans des micro-entreprises, dans des conditions difficiles, dangereuses et insalubres, et qui n'ont généralement pas accès aux avantages sociaux accordés à leurs homologues du secteur formel. Puis dans ce groupe figurent les travailleurs non rémunérés, qui sont le plus souvent des membres d'une même famille, et les apprentis. Donc, qui organiser? Première question. Donc, ce qu'on dit dans le document, c'est qu'on commence par organiser les catégories les plus faciles à organiser, donc celles qui sont à portée de main. Dans le document, ce qu'on indique, c'est que ben, si on se retrouve dans un syndicat sectoriel, hein, donc d'aller chercher les travailleurs de l'économie informelle appartenant à notre propre secteur. Okay. Mais en gros, qui organiser? Ben, ceux qui sont à portée de main. Après, il faudrait organiser tout le monde. Donc, qui organiser? C'est mon opinion. À portée de main, oui, mais après, on essaie d'aller vérifier. Est-ce qu'on peut aller chercher d'autres individus? Est-ce qu'on peut essayer d'aller faire une espèce de recherche à partir de ces premières personnes, mais essayer d'aller connaître qui sont les autres travailleurs du secteur informel, bref. Bon, ensuite, comment les organiser? Hein, important également. Donc, les approches les plus courantes sont celles qui consistent à respectivement à organiser individuellement les travailleurs de l'économie informelle en syndicats sectoriels. OK. Ensuite, ben, associer ou affilier les associations d'économie formelle aux syndicats sectoriels existants. Donc, c'est parfait. Donc, apporter une main, on va chercher des gens de notre secteur, puis on les associe, affilier à nos secteurs syndicats sectoriels. Reconnaître les associations de l'économie informelle comme syndicats et les affilier à la centrale syndicale nationale. C'est intéressant. Donc, on a beaucoup de, apparemment, de regroupement, d'association chez les travailleurs de l'économie informelle, puis ben, est-ce qu'on peut tenter d'aller chercher ces gens, puis de dire, ben voilà, maintenant tu appartiens à la CSN ou à l'FTQ. Associer les groupes d'opérateurs dans les travailleurs de l'économie informelle en tant que coopérative. Donc, s'asseoir avec ces gens pour ben, vérifier comment ces gens peuvent s'associer, puis voilà, pour éventuellement améliorer leur sort. Maintenant, les statuts et règlements, c'est important. Donc, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que ben, on va devoir modifier leur statut. Pourquoi? Ben, pour reconnaître ces gens, OK? Pour les intégrer, pour s'assurer qu'ils participent de façon effective à tout ce qui est ben, voilà, syndicalisme, activité syndicale. À défaut, ils risqueraient de se sentir isolés ou marginalisés, ce qui nuirait à l'objectif d'intégration de ces travailleurs au mouvement syndical. Donc, les statuts et règlements doivent être conçus de façon à assurer une représentation équitable des travailleurs et de l'économie informelle. Maintenant, question à l'ordre du jour, la cotisation. Donc, dans les statuts et règlements, il faut penser à ajuster la cotisation. Pourquoi? Parce que travailleurs de l'économie informelle égale pauvreté, en fait, pauvreté. En fait, précarité d'abord, par la suite pauvreté, possiblement. Et donc, on parle de ce qu'on dit, ben, moins de revenus. Okay? Et donc, les cotisations, on sait que, ben, en fait, les syndicats tirent l'essentiel de leurs revenus des cotisations payées par les adhérents. Les travailleurs, donc, bon, là, on parle, hein, on se situe dans une relation formelle. Les travailleurs versent ainsi tous les mois ben, des cotisations, puis ben, le syndicat défend les intérêts de ces travailleurs. Mais là, au niveau des travailleurs de l'économie informelle, hein, des gens qui sont en situation donc de, bien souvent de pauvreté, hein, surtout quand on se rend dans le tiers-monde, on fait quoi? Hein? Des gens qui ont peu de revenus, est-ce qu'on peut leur demander ben, de nous verser des sommes d'argent? Hein? Donc, la faiblesse des revenus de ces travailleurs de l'économie informelle fait en sorte que ça devient complexe là, pour, je dirais, là, gérer ces cotisations, pour le paiement d'une cotisation syndicale. Et on tire le lien, donc on crée le lien avec les avantages obtenus donc, en échange donc la cotisation. Donc, on se dit, dans l'article, on parle de compromis. La personne, le travailleur de l'économie informelle, gagne moins de sous et donc peut verser moins, une somme moins importante en termes de cotisation. Puis on fait quoi? Ben, est-ce qu'il faut des compromis? Est-ce qu'on doit exiger des compromis? Ce qui fait qu'on défend moins les intérêts du travailleur de l'économie informelle. Bref, je ne suis pas d'accord avec cette approche, mais effectivement, c'est une approche qui existe. Hein? Ce qu'on dit, c'est qu'il existe quatre approches, donc même droit pour un même montant de cotisation. Okay? Mais bon, est-ce que c'est possible maintenant pour ces travailleurs de l'économie formelle de verser autant de sous que les travailleurs de l'économie formelle? Ensuite, même droit pour un montant de cotisation réduit. Je suis d'accord avec cette approche. Réduction des droits pour un montant de cotisation réduit, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut aider ces travailleurs de l'économie formelle, donc de leur offrir moindre droit. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est les aider ou c'est les maintenir dans leur situation, je dirais, de précarité? de vulnérabilité. Ensuite, ben, une cotisation minimale. Mais la cotisation minimale équivaut à quoi? Est-ce qu'elle équivaut à... Ben, j'espère au moins que la cotisation minimale équivaut à les mêmes droits. Mais ce n'est pas spécifié dans l'article. Donc, quatre approches quand on parle de cotisation, donc de ces travailleurs de l'économie informelle, pour résumer. Donc, même droit pour un même montant de cotisation. Ensuite, même droit pour un montant de cotisation réduit. Réduction des droits pour un montant de cotisation réduit, hein, d'accord avec cette approche, et cotisation minimale, mais j'espère pour un même niveau de droits, pour des mêmes droits. Ensuite, maintenant, il y a toute la question donc, des services et avantages offerts à ces travailleurs de l'économie informelle. Donc, une fois donc, qu'on a été en mesure de recruter ces fameux travailleurs, les syndicats doivent s'employer à fournir des services, mais abordables. Et donc, les principaux services offerts par les syndicats aux adhérents donc, du secteur de l'économie informelle concernent la négociation collective, la formation, l'éducation, la représentation, le conseil et le rôle consultatif au sens large. Les avantages également, en fait, les services offerts, pardon, donc, on parle maintenant d'avantages plus spécifiquement, avantages sociaux, inclus donc tout ce qui est non prévu en fait par les statuts et règlements. Donc, en gros, pour les services avantages offerts, on offrait des services à un tarif abordable maintenant. Bon, est-ce que les cotisations couvrent tous ces services avantages? On comprend que non. Mais donc, s'il faut offrir donc, des avantages, services avantages supplémentaires, un tarif abordable, c'est ce que demande le BIT. Maintenant, structure et culture démocratique, intéressant. On dit dans l'article que la formation peut être élargie. En fait, donc, vous formez nos travailleurs de l'économie informelle. En fait, on regroupe ensemble des travailleurs, puis ben, on essaie d'élire des dirigeants, hein, parce que dans l'article, on parle, donc, on dit essentiellement que ben, les syndicats, les dirigeants doivent être formés. Et donc, on fait la même chose pour ces travailleurs de l'économie informelle. Puis, on parle de culture démocratique d'organisation. Donc, on dit essentiellement qu'il y a des différences, en fait, le notable, hein, importantes au niveau là, des relations sociales et d'organisation du travail entre voilà, les travailleurs de l'économie informelle et les travailleurs de l'économie informelle, différences au niveau du lieu de production, hein, ça peut être c'est clair, au niveau des valeurs et des attitudes des dirigeants, des militants syndicaux, donc des dirigeants et des militants syndicaux, puis voilà. Donc, différences notables. Je donne mon opinion. Donc, relations sociales qui peuvent être, en fait, dans le niveau de l'économie informelle, ça dépend, on se situe, ben, ça dépend quel genre de relations de travail nous avons. C'est pas toujours, on parle beaucoup de relations négatives, difficiles d'exploitation, mais c'est pas toujours le cas. Donc, probablement que l'article, en fait, le BIT, fait référence à ces relations, je dirais, d'exploitation au niveau là, du secteur informel, donc relations sociales difficiles. Où il y a un rapport de force là, qui en fait où l'ampleur un rapport de force accentué je dirais là, qui maintenant l'organisation du travail ben, faut aussi vérifier quelle est-elle l'organisation du travail au niveau là, du secteur informel ensuite lieu de production est-ce qu'on a des lieux de production, je dirais, là, souvent, si on est à la maison, quel est le lieu de production? Est-ce que le lieu de production, en fait, il est... Est-ce qu'on se situe chez Hydro-Québec, dans un bureau chez Hydro-Québec, ou on est à la maison, ou caché, dans un... J'ai déjà parlé des travailleurs du coltan en République démocratique du Congo, donc cachés quelque part, dans une mine souterraine ou en forêt, bref. Puis maintenant, des valeurs et des attitudes des dirigeants et des militants syndicaux, est-ce qu'on est plus en autorité chez les travailleurs de l'économie informelle? Donc, pour cette raison, je pense qu'on doit former ces dirigeants, hein, ces nouveaux dirigeants, entre guillemets, syndicaux du secteur informel sur donc, la culture démocratique d'organisation. Bref, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Hein, mais maintenant, après, est-ce que tous sont méchants? Non. Hein? Donc, voilà. Donc, voilà pour le comment organiser arriver à syndiquer ces travailleurs de l'économie informelle. Donc, qui organiser, je résume. On commence par les personnes qui sont à portée de main, puis on essaie d'étendre le tout pour aller chercher ces autres personnes. Maintenant, il y a la question des cotisations qui est très importante. On essaie, c'est ce que je mets de l'avant, d'offrir une cotisation réduite pour un même niveau de droit. Mais après, si vous avez l'approche que vous optez pour l'approche que vous désirez. Maintenant, il y a également tout ce qui est avantages, services avantages sociaux offerts. On essaie d'offrir des services avantages sociaux à un montant, en fait, à un tarif abordable. Également, il y a la question de comment les organiser. Donc, on peut organiser individuellement les travailleurs de l'économie informelle, associés ou affiliés, les associations de l'économie informelle aux syndicats sectoriels existants, reconnaître les associations de l'économie informelle comme syndicats, puis les affiliés à la centrale syndicale nationale, puis ben, finalement associer les groupes d'opérateurs de l'économie informelle en tant que coopérative. Les statuts et règlements doivent être revus pour inclure ces gens, pour les reconnaître officiellement, pour qu'ils puissent à la limite participer également à tout ce qui est activité, décision syndicale. Et finalement, ben, on a l'éducation sur la culture démocratique, donc s'assurer ben, que ces fameux travailleurs de l'économie informelle respectent la démocratie, hein, qui est en fait un syndicat se doit normalement et démocratique, prône la démocratie. Et donc, ces nouveaux dirigeants donc, du secteur de l'économie informelle doivent également voilà, prôner une démocratie. Donc, on se laisse maintenant pour une brève, pour une pause musicale, un artiste, ABD Al-Malik, un artiste que je ne connais pas. D'origine que je ne connais pas également, donc une pièce, la pièce syndicaliste. Donc on se laisse et on se retrouve dans 3 minutes. Me revoilà au micro, donc deuxième sujet à l'ordre du jour, la pratique du journalisme dans les pays en développement. Ben, on est à l'émission La Voix des immigrants, donc c'est important. Puis ben, malheureusement, hein, encore aujourd'hui, quand on parle d'immigration, on parle beaucoup de pays en développement et pays sous-développés. Donc, je me suis posé la question, ben, finalement, ben, se passe quoi dans ces pays en développement à sous-développer du point de vue des pratiques journalistiques? Je vous l'avais mentionné lors de la dernière émission, donc on se rapporte toujours à novembre 2023, donc on allait discuter du sujet aujourd'hui. Puis je vous mentionnais que j'avais un nouveau collaborateur qui allait vous entretenir sur le sujet, Hervé Kakenza. Et donc Hervé Kakenza, qui est également un journaliste en RDC, a rencontré un second journaliste de la presse écrite, puis il a posé la question, et donc le journaliste nous donne son opinion. Le journaliste, c'est, ben voilà, il parle de la situation en RDC, au Congo, mais bien évidemment, on pense que cette situation peut s'étendre, en fait, à l'ensemble des pays en développement. Monsieur le journaliste parle donc des conditions de travail des journalistes en RDC et par la suite donc sur la réalité de la pratique du métier. Donc il fait le lien avec la sécurité là, de cette pratique en lien avec cette pratique journalistique. La pratique journalistique, c'est, écoutez, j'ai peut-être pas le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, en fait, c'est un sujet d'actualité entre guillemets. C'est-à-dire qu'on sait que les journalistes, en fait, sont des gens qu'on assassine, entre guillemets, les gens qui sont, voilà, qu'on espionne parce que les journalistes donnent de l'information, puis est-ce qu'on veut qu'ils dévoilent une information, voilà, qui va, qu'on ne désire pas. Pour quelle raison? Pour une raison X autre. Donc, ce journaliste de la presse écrite au Congo part dans des conditions de travail à nouveau, puis de cette réalité de la pratique journalistique en RDC. Donc, on écoute l'entrevue, en fait, la discussion entre guillemets de ce monsieur, le journaliste de la presse écrite, puis on se retrouve par la suite.
Oui, Hervé 96. Mon cher, les conditions d'un journaliste sont déplorables en RDC. Tout d'abord, le journalisme est un travail d'équipe. Mais ce que nous voyons ici en RDC, le journaliste est délaissé à son triste sort. Le journaliste fait un travail individuel. Il s'élève le matin, il se débrouille avec son transport, arrivé sur le terrain. Il doit chercher comment est-ce qu'il peut s'infiltrer pour chercher l'information, puisqu'il n'y a pas de facilité. Déjà au départ, on ne te donne pas accès à l'information. Tu te débrouilles toute seule, tu rentres à la rédaction toute seule, avec tes moyens. Bon, à part ça, il y a un grand problème en ce qui concerne les... Voilà, je voulais aussi soulever les statistiques de la JET, journaliste en danger, qui atteste que plus de 15% des journalistes subissent les atteintes à la liberté de la presse. Les journalistes ne sont pas épargnés. Ils subissent des menaces, des intimidations, des arrestations de la part des politiques, de la part des gens qui ne veulent pas que la population puisse accéder facilement à l'information, des gens qui cherchent à cacher la vérité sur ce qui se passe en RDC. Moi, personnellement, j'ai subi aussi des menaces. Il y a des gens qui m'appelaient au téléphone pour m'intimider sur une publication dont j'avais fait. Une information dont j'avais publié. Donc, les journalistes en RDC sont exposés. C'est un travail difficile, très difficile voire même. Vous n'avez pas de moyens. Sur le plan financier aussi, nos rédactions n'arrivent pas à rémunérer les journalistes correctement. Vous voyez, ce qui ne facilite pas un travail d'équipe, puisque les journalistes en soi, c'est un travail d'équipe. Voilà quelques éléments dont j'ai pu soulever par rapport à votre question. Merci.
Me revoilà au micro à nouveau. Alors, on a entendu donc le journaliste congolais de la presse écrite. Cette fois-ci, c'est M. Hervé Kakenza, donc notre nouveau collaborateur, qui discute donc de cette pratique du métier. Voilà. Puis qui dit, au fond, essentiellement, on va l'entendre, qu'il y a dans les pays en développement, bon, il y a encore une problématique en matière là, de liberté de presse, de liberté d'expression, puis ben voilà. Donc cette liberté, cette atteinte à la liberté de presse et d'expression est un impact clair sur la pratique du métier. Donc on écoute M. Kakenza voilà, et parle rapidement, entre guillemets, donc est bref. Donc on écoute M. Kakenza et on se retrouve dans une minute, environ deux minutes. Donc voilà.
La noblesse du métier du journalisme ne trouve pas son expression dans la plupart des pays du tiers-monde, particulièrement la République démocratique du Congo à laquelle nous faisons partie. L'influence de la ligne éditoriale dicte la conduite de chaque média. Quand nous parlons aussi de la notion de politique rédactionnelle, c'est-à-dire les médias ne sont pas autonomes, ils dépendent des partis politiques, soit ils sont de l'opposition, soit ils sont dans la majorité. Vu que nous sommes dans un pays où la démocratie peine à poser ses bases, le journalisme ou la presse est contrainte à beaucoup de difficultés. Et le journalisme, en termes de rémunération, il ne gagne déjà pas bien, puisque la plupart doivent vivre de coupage. Du coupage, c'est-à-dire l'interview, il doit être monnayé pour une interview, et parfois les questions sont envoyées à l'avance. Voilà, et déjà avec une pratique où les questionnaires doivent être connus de son interlocuteur ou de son interviewé avant même l'interview, et la quintessence du mot interview ne trouve même pas sa place, puisqu'il faut sortir le scoop. Et si les questions sont connues d'avance, comment pourrons-nous obtenir le scoop? Donc les conditions du journalisme dans les pays comme la RDC est vraiment difficile. Les journalistes peinent à exercer leur métier dans la liberté, puisqu'ils sont contraints par les politiques qui parfois mettent la pression sur les journalistes, qui dictent leur conduite, qui leur intimident, les privent des libertés. Et du coup, c'est difficile d'exercer un métier dans un pays où la liberté d'expression est apparente. Elle n'est vraiment pas existante, comme nous pouvons le dire dans les pays libres et démocratiques. Ce qui veut dire que les journalistes dans la République démocratique du Congo travaillent dans des conditions difficiles et défavorables. La noblesse du métier n'existe même pas.
Donc, j'espère que vous avez bien apprécié les discussions du journaliste de la presse écrite, puis de notre nouveau collaborateur Hervé Kakenza. Maintenant, la discussion d'Hervé Kakenza m'a rappelé une situation qui m'est arrivée. Hein. En fait, j'ai débuté un cours en journalisme. Hein. J'ai étudié, j'avais déjà mentionné, en relations industrielles, puis j'ai effectué une maîtrise par la suite. En droit du travail, je n'ai jamais étudié en journalisme. Et là, je me suis dit, ben voilà, je participe à l'émission La Voix des immigrants, pourquoi pas débuter un cours en journalisme pour avoir une émission, je dirais, plus professionnelle, hein, pour qu'on devienne possiblement un jour l'émission de référence concernant l'immigration, hein, mais je blague. Donc, j'ai débuté ce cours en journalisme, puis on avait un devoir qui était donc de rédiger une nouvelle à partir d'une conférence traitant de la loi C-18. La loi C-18, ben, on en a parlé dans l'actualité. C'est la loi concernant les plateformes de communication en ligne, rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada. Okay. C'est une loi qui oblige les intermédiaires de nouvelles numériques ou plateformes numériques comptant 20 millions d'abonnés mensuels à négocier des ententes avec des entreprises de presse, donc des médias d'information, pour leur verser des redevances parce que la popularité des réseaux sociaux maintenant on est tous sur Facebook, Twitter, on a Google comme moteur de recherche important. Donc depuis ces grandes entreprises, la présence de ces grandes entreprises du web, ce qui se passe, c'est que maintenant on a donc du contenu de nouvelles. Donc les grandes entreprises de presse, de médias canadiennes, donc ici on est au Québec, on va parler de La Presse, du Journal de Montréal, Journal Le Devoir, je sais pas, mais bon, hein. Bref, on a donc des grandes entreprises de presse qui rendent disponibles leurs nouvelles sur ces réseaux sociaux. Donc Facebook, non, parce que Facebook, quand le gouvernement fédéral a parlé de l'adoption donc, de la loi, Facebook s'est retiré et a dit non, moi j'arrête de diffuser des nouvelles. Hein? Et donc, aujourd'hui, on a toujours Google qui est impliqué, Google et Twitter, je ne sais pas, mais on a Google, c'est clair. Et donc, parce que maintenant, on diffuse des nouvelles sur ces grands géants du web, ben, de plus en plus, je pense que c'était la problématique, les citoyens canadiens, plutôt que d'acheter, de payer pour de l'information, donc de s'abonner au Journal de Montréal, à La Presse, au Devoir. Il y a d'autres journaux, hein, mais vraiment, ce sont les plus connus. Donc, il y a Le Soleil, etc. Il y a les journaux régionaux également. Bref, plutôt que de s'abonner, donc de payer pour de l'information, ben, ça devenait facile maintenant pour les citoyens canadiens, donc, de tout simplement donc, se rendre sur Google ou aller à un moment sur Facebook, peut-être sur Twitter également, pour consulter, donc avoir accès à cette information. Donc, on avait accès à une information qui était maintenant gratuite. Le taux a entraîné donc des pertes de revenus considérables pour ces entreprises de presse et éventuellement des pertes d'emploi importantes. Hein. On le sait, j'en avais parlé lors de la dernière émission, en novembre 2023 toujours, hein, peut-être même avant, Radio, en fait c'est TVA, qui avait annoncé Pierre-Carl Pladeau, hein, ce fameux grand dirigeant, qui avait annoncé donc la perte d'emploi chez TVA. Je pense qu'on avait 500 coupures de postes, mais pourquoi? Ben, tout était directement en lien avec cette crise médiatique, crise au niveau des médias, parce que bon, on a des géants du web maintenant qui diffusent l'information de ces entreprises de presse et gratuitement. Bref, voilà. Donc, donc le gouvernement fédéral a décidé d'adopter une loi pour un peu pallier à cette histoire, parce que là, aujourd'hui, est-ce que demain, on aura toujours des journalistes? Je ne sais pas, la question se pose. Hein. En tout cas, qui va rédiger les nouvelles. Mais tout de même, l'information maintenant se trouve sur Google, Twitter, et puis maintenant, plutôt que de s'abonner au Journal de Montréal, mais on consulte Google. Bref, voilà, donc, le gouvernement fédéral a adopté cette fameuse loi. Et puis, donc, on était donc dans le cours et l'enseignant a invité un conférencier du nom de Jean-Hugues Roy, qui est journaliste et professeur à l'École des médias de l'UQAM. Monsieur Roy a parlé du sujet. Okay? Et donc, nous, on devait par la suite, donc, Monsieur Roy a dit que la loi C-18 va permettre au gouvernement fédéral d'aller chercher des revenus supplémentaires. On parlait de 234 millions à peu près, je pense, de redevances qui seraient versées aux entreprises de presse. Hein. C'est un peu l'objectif de la loi, d'aller chercher des redevances pour les verser à ces entreprises pour pallier à la perte de revenus. Bref, donc, c'était le sujet essentiel, principal de la conférence de M. Jean-Hugues Roy. Mais M. Jean-Hugues Roy également a parlé lors de sa conférence d'autres façons pour ces entreprises de presse aller chercher des revenus. Donc, une de ces autres façons était de demander à nouveau maintenant aux citoyens canadiens donc, de payer pour de l'information, donc de s'abonner. Okay? Mais bon, ce n'est pas la solution la plus optimale, hein, mais tout de même, hein, c'était possible maintenant de redemander donc, aux citoyens canadiens et québécois de verser des sous, de s'abonner. Et donc, j'ai décidé de produire ma nouvelle sur le sujet, sur cette histoire où on redemande aux citoyens de s'abonner, puis on a un crédit également qui est disponible. Hein. Donc, parce que je voulais faire les choses différemment. Donc, je me suis dit, l'ensemble des élèves vont parler de cette fameuse voix, c'est visible, pourquoi pas parler d'autre chose. Et donc, j'ai eu un retour de l'enseignant. L'enseignant a dit, ce n'est pas une nouvelle. Et je lui ai demandé pourquoi. Et donc, essentiellement, la réponse était que la nouvelle, au fond, ce que j'ai compris, c'est que doit aborder un sujet qui est pas populaire, mais un sujet qui est populaire d'une certaine façon, parce qu'il a fait l'actualité. Donc, ce qu'on veut, c'est aller chercher, et je l'ai noté, on doit traiter d'un sujet pour lequel le peuple a déjà un intérêt. C'est ce que j'ai compris. Plutôt que d'aborder un sujet méconnu, mais qui serait, selon moi, tout aussi important. Donc, parler de la loi C-18, oui, c'est un intérêt pour le public, puis oui, c'est en fait ce qu'on comprend au niveau des médias, c'est ce que j'ai compris, c'est que il y a beaucoup de sous, je pense, derrière le fait qu'on doit parler d'un sujet qui est d'intérêt plutôt que d'informer simplement ou d'apporter une nouvelle, d'informer sur un sujet, le peuple sur un sujet méconnu. Pourquoi? Parce que l'intérêt génère des revenus. Donc, de parler de loi C-18 alors qu'on en parlait déjà, ça suscite probablement. Donc, les citoyens le connaissent, le sujet, puis ça vient susciter l'intérêt, alors que parler de, j'ai parlé de développement durable, mais parler de, bref, peu importe le sujet qui est plus méconnu, est-ce que les citoyens s'intéressent à ce qui est inconnu? Peut-être que non, hein, au fond. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait la nouvelle, en fait, qu'on produit, doit traiter d'un sujet qui est déjà d'intérêt public, hein, plutôt que d'informer simplement le citoyen. Bref, et j'ai noté également, donc aujourd'hui on parle beaucoup de crise du logement. Hein, on écoute l'actualité, crise du logement, crise du logement, crise du logement. Pourquoi? C'est populaire maintenant de parler de crise du logement. Mais il y a autre chose que la crise du logement. Comme quoi? Ben, faut trouver, mais il y a autre chose que la crise du logement. Mais on en parle constamment. Bref. Donc, et on parle surtout de plus en plus, donc, de créer un lien entre la crise du logement et l'immigration. Alors, c'est très populaire également. Donc, je l'ai mentionné au départ. Bref, hein, c'est de la faute, entre guillemets, presque des immigrants s'il y a une crise du logement. Bref. Donc, on parle de sujets qui intéressent le public plutôt que d'informer simplement la population. Et donc, j'ai pensé, je me suis dit, mais pourquoi? Hein? Puis, donc là, j'ai créé un lien, en fait, là, j'ai pensé au populisme. Puis bon, vous savez que le populisme, lisez la définition dans le journal, sur Google, mais je prône Google, peut-être que je ne devrais pas prôner Google, mais bref. Voilà, le populisme, un peu, c'est justement parler de sujets qui intéressent déjà le public. On parle beaucoup, quand on parle de populisme, on fait beaucoup référence aux politiciens. Donc, ces politiciens vont traiter d'un sujet qui intéresse déjà le public pour aller chercher des votes. OK? Donc, c'est un peu ce qui se passe au niveau des médias. Faites une recherche, puis vous allez constater qu'on crée beaucoup, on crée un grand lien entre le populisme et les médias. Et donc, j'ai lu un article de femmes algériennes, Nabila Bouchala et Aïssa Mera. Donc, article qui s'intitule « Quand le médiatique devient populiste, risque sur l'apprentissage démocratique en Algérie ». Essentiellement, bien évidemment, on se situe en Algérie, mais c'est vrai que cette histoire du populisme et du média, donc, elle est vraie pour toutes les nations. Donc, je vous résume un peu ce que les mesdames, les Algériennes, en fait, les dames, les Algériennes, ont indiqué, donc, transmis, alimenté par les médias, ce populisme étouffe tout discours politique revendicatif au niveau du texte de mesdames algériennes. En fait, c'est beaucoup, quand on parle de populisme, on comprend qu'on, c'est vraiment oui, il y a les politiciens qui décident de traiter d'un sujet qui fait déjà, entre guillemets, l'actualité au niveau du public, et d'en parler pour aller chercher éventuellement des votes. Mais au niveau du texte de mesdames, c'est davantage, en fait, c'est l'État qui dirige, qui domine l'information, donc qui fait en sorte que les médias transmettent le message désiré par les dirigeants. Donc, transmis, alimenté par les médias, ce populisme étouffe tout discours politique revendicatif, critique ou au moins rationnel. L'accélération de ce processus a compromis la participation citoyenne et réduit les chances de toute forme de débat démocratique. L'espace médiatique s'est installé dans un néo-autoritarisme endurci, où tout discours discordant au discours officiel, donc de l'État dominant, et tout discours rationnel s'étouffe sous la spirale du silence imposé par le discours populiste. Hein. Le populisme est un danger qui menace de détruire la démocratie elle-même. C'est intéressant. Dans le cas présent, et puis bon, là, j'ai pensé directement donc à ma situation, hein, dans le cadre de mon cours. Hein. Donc, dans le cas présent, une des variables observées est le journaliste dont les actions se trouvent en complémentarité avec le système dans lequel il est inséré. Embrigadé dans un système médiatique à forte consonance commerciale, la tendance aujourd'hui est au journalisme dont les principes ne sont pas clairement édictés. Bref, on parle de consonance commerciale, donc c'est un peu ce que, voilà, c'est ma situation, hein, je juge. Hein. Donc, il fallait traiter d'un sujet qui, entre guillemets, a déjà semé l'intérêt du peuple, hein, des citoyens. Pourquoi? Ben, il y a probablement une question de revenu derrière ça. Okay? D'ailleurs, pour revenir au texte de mesdames. Donc, d'ailleurs, dans un ancien directeur de journal, en fait, un ancien directeur de journal indique que le recours au discours populiste par les journalistes algériens s'inscrit dans une démarche de simplification et de banalisation des problèmes sociaux. C'est important. Donc, je devais discuter de la loi C-18. Plutôt que de parler d'abonnement, hein, puis ben, abonnement, c'est un sujet banal, hein, mais il y a des problèmes sociaux, on a des problèmes sociaux au Québec et au niveau de toutes les nations. Et donc, ce qui est important et quoi? C'est de parler donc de. De la loi C-18 plutôt que de parler ben, du fait que les féministes on en parle beaucoup, mais plutôt que de parler du fait que ben voilà de juste le revenu décent des femmes et on n'a pas encore atteint aujourd'hui un revenu décent chez les femmes, bref, hein? Donc voilà. Puis donc la tendance que nous observons aujourd'hui est celle de vouloir plaire, hein? Donc hein? On cherche à plaire au public et d'avoir un nombre important de lecteurs qui le suivent. Donc, ainsi, les journalistes adoptent parfois des positions qui s'éloignent de la rationalité, de la justification de leur argument. Bref, hein, voilà, c'est intéressant. Puis, j'aurais dû en reparler à l'enseignant, mais non, je ne l'ai pas fait, mais bref, c'est intéressant. Comprendre qu'au fond, pour les futurs journalistes, aujourd'hui, je pense la tendance est à l'effet ben, qu'il faut produire une nouvelle pour plaire et non produire de l'information. Une réelle information pour informer le public, puis faire avancer, changer les choses. Hein, dans le cours, ce qu'on dit dans le cours de journalisme, c'est qu'une des fonctions du journalisme, c'est de changer, entre guillemets, le monde, mais en écrivant, en produisant de l'information sur des sujets pour plaire, en fait, est-ce qu'on change le monde ou on est vraiment dans... C'est clair qu'on s'éloigne, en fait, de tout ce qui est essentiel, donc s'assurer que les femmes aient accès à un revenu décent. En fait, c'est une opinion, mais bon, est-ce qu'on est toujours dans l'essentiel, donc s'assurer que les femmes aient accès à un revenu décent? Peut-être que non. Hein? Donc, voilà. Donc, fin de cette histoire, hein, donc, du journalisme, donc la pratique journalistique dans les pays en développement, c'est difficile, on le sait, quoi faire hein, pour s'assurer que les journalistes, même qu'ils puissent exercer leurs fonctions librement. Parce que les journalistes produisent de l'information essentielle pour, oui, amener un changement. Mais bon, alors, si ces gens-là sont toujours, en fait, on se dit, ben non, ben oui, les femmes doivent avoir accès à un revenu décent, oui, mais le journaliste en parle, et puis après, le journaliste est puni. Bon, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Bref. Voilà. Donc, on se laisse maintenant pour une autre brève et dernière pause musicale. Mr. You. Featuring Balti, donc une pièce maghrébine, hein, donc d'artiste probablement de l'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, donc bref. Mr. You, une pièce de 3-4 minutes, et on se retrouve par la suite pour clore l'émission. خرجوا القرعي من التلاجة دراري مستريو جمع بولتي كيما القاعدة ديسكو عرب الدارجة دنيا غدا وكاع ما راجعة دنيا غدا وكاع ما راجعة يوم ويداد غدا راجع يوم ويداد غدا راجع تفرجوا فيا في التلفازة سنتوا ليا في الراديو جاي بحال بالكم صحاب حجي باصيرو كاماتشو سولوا عليا في الشمال سقسوا كاع البزنسة يقولوا لكم يوكا تاكا العشي ورتاع كازا خاوة دابا 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 اوروبا تندم عليا. Me revoilà au micro, donc l'émission est terminée, mois de février approche, donc le mois de l'histoire des Noirs au Québec, donc le 29 novembre 2006, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi visant à faire du mois de février le mois de l'histoire des Noirs, donc afin de souligner la contribution historique des communautés noires à la société québécoise. Donc la loi est entrée en vigueur en 2007. Donc, par l'adoption de la loi proclamant le mois d'histoire des Noirs, le gouvernement du Québec entend non seulement ajouter sa voix au mouvement nord-américain soulignant l'apport des citoyennes et citoyens de communautés noires, mais désire également reconnaître officiellement l'importance de cet événement annuel pour l'ensemble de la société québécoise. Donc, L'adoption de cette loi est aussi, pour le gouvernement du Québec, l'occasion de concrétiser une des recommandations du rapport du groupe de travail chargé de conduire à l'automne 2005, donc une consultation sur la participation à la société québécoise des communautés noires. Et au cours de cette consultation, bon nombre de citoyens des communautés noires ont souligné l'importance de prendre en compte l'apport des Noirs dans la mémoire collective, ainsi que d'améliorer leur image au sein de la société. Bref, donc le mois de l'histoire des Noirs du 1er au 29 février 2024 pour avoir de l'information sur en fait l'ensemble des activités, consultez moi histoire des Noirs, le mois de l'histoire des Noirs, hein, je ne dirais pas sur Google. Bref, moi de l'histoire des Noirs sur internet.com, puis ben, vous aurez accès à l'ensemble des activités prévues dans le cadre de ce super mois. Bref, également, voilà, vous savez que j'effectue donc toujours du bénévolat pour le Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Donc, et au centre, encore, je répète ces mêmes phrases depuis le début de l'émission à peu près, donc depuis 3-4 ans. Donc, au centre, vous avez l'Association des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et l'Association des travailleuses et travailleurs d'agences de placement. Et si vous vivez des conditions de travail difficiles, donc voilà, vous pouvez contacter le centre. 514-342-2111.
Good evening, it's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio, from drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional student and community productions in and around Montreal, the island also known as Dojage in the Ganyagaha language, and Munayang and Anishinaabe Moan, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah Day, live in studio on Thursday, January 25th, 2024. It is our third show of the new year. And before I begin and let you know what's coming up, very important to mention that there was a very special birthday yesterday. A very happy birthday and celebration to Estelle Rosen, one of the original, or I think the original person. She took it over from someone else beforehand, but the person who helmed Upstage for so many years, a passionate lover of theater and the arts in this city. I'm hoping to stop by next week with some flowers and cake to celebrate with her, but she's doing well and keeping very, very busy. And Estelle, thank you so much for everything you've done for theater in Montreal and for me as well as a radio person and everything you've done for CKUT. So happy birthday, Estelle Rosen. By the way, I met Estelle because I was volunteering one night at an awards show, kind of pre-metas. It was when we had Meccas, the critic.